franceinter.fr.
C'est en Italie, mon cher Alain Baraton, avec l'arôme. On l'appelle aussi gouet.
Et oui, c'est une plante commune que l'on trouve un petit peu partout dans la nature. Elle apprécie les lieux ombragés, les terres humides, et elle est connue de tous, du moins visuellement. Son nom peut-être moins.
Et longtemps, ça a intrigué les botanistes.
Oui, et pour plusieurs raisons. Ce que l'on croit être une fleur est en fait une feuille en forme d'entonnoir. En botanique, on la nomme bractée. Les feuilles, les fleurs, les vraies, sont discrètes. Il en existe de trois sortes. Les mâles, les femelles et les stériles.
Et où est-ce qu'on les trouve?
Alors, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont à l'intérieur de la bractée, à l'abri du vent et hors de portée des oiseaux et insectes nuisibles. Il existe aussi des fleurs stériles très visibles. Celles-ci sont regroupées en épis et créent cet appendice qui émerge du cœur de l'inflorescence.
Et alors, pour attirer les insectes qui vont les polliniser, hein, elles produisent ces plantes du parfum.
Eh oui, en général, oui, mais pas notre arôme. Les insectes classiques, comme les abeilles et les papillons, ne l'intéressent pas. Ce dont il a besoin, c'est de mouches et de moucherons. Vous connaissez bien sûr, Patricia, l'odeur qui attire les mouches.
Je ne sais pas si on va le préciser, c'est peut-être pas utile.
Non, vous avez raison, ce n'est vraiment pas utile. Notre fleur stérile produit donc une odeur infecte qui attire les bestioles. Elles arrivent, se posent sur l'appendice et glissent dans la poche située à la base.
Mais ça, est-ce que ce n'est pas une technique qu'emploient les plantes carnivores?
Exactement, sauf qu'ici, les insectes ne sont pas digérés, ils sont au contraire dorlotés. Certes, une barrière de poils dressée les empêche de s'échapper, mais ils sont bien logés. Sitôt emprisonnés, leur corps se couvre du pollen abondant produit par les fleurs mâles. Quand les fleurs mâles cessent de fleurir, et comme par enchantement, les poils dressés se fanent et permettent aux insectes de s'échapper.
Mais seulement pour quelques temps.
Et oui, car comme je vous l'ai dit, l'endroit est confortable. Ce n'est pas une prison, c'est un hôtel. À peine ont-ils recouvré la liberté que les insectes pénètrent dans une autre fleur et déposent sans attendre le pollen qui les recouvre dans le cœur des fleurs, cette fois femelle. C'est ainsi que depuis la nuit des temps, une plante permet à un insecte de vivre à l'abri des prédateurs et ce, en échange d'un modeste service, assurer sa descendance. Une citation enfin signé René Barjavel.
C'était une odeur de monde qui naît ou qui meurt, une odeur d'étoile.
Voilà, mais comme quoi la nature est assez extraordinaire et l'idée qu'une plante ait passé un pacte avec des insectes pour assurer sa descendance, moi je trouve ça extraordinaire.
Ouais, vous avez raison.
Et je tiens à préciser que l'arôme d'Italie, il vous suffit d'aller sur internet de voir la photo, nous connaissons tous cette plante, c'est comme l'arôme cultivé, c'est petit, il y a la fructification, on voit souvent des boules rouges dans les sous-bois, voilà l'arôme d'Italie, attention, la plante est toxique.
Ça s'écrit A-R-U-M.
Tout à fait.
La question était de Laurent de Paris. Une autre question, Louis, est-il possible d'avoir sur son balcon un arbre véritable, mais dans un bac qui n'excède pas un mètre de côté?
Oui, mais à quelques conditions. Déjà, il faudra des arbres qui poussent dans un bac qui s'ouvre sur le côté. J'explique, je parle du bac, bien entendu. Quand vous avez un pot, un contenant d'un mètre de côté, cela veut dire que la motte et le poids du végétal est important. Et il faudra de temps en temps couper les racines, parce que la technique est la suivante. Vous mettez un arbre dans un réservoir et vous le laissez pousser. Les branches, bien entendu, se développent, le tronc, mais les racines aussi. Alors comment faire pour que l'arbre continue de croître en ayant l'impression de vivre dans une forêt? Il vous suffit simplement, tous les deux ou trois ans, de dépanoter l'un des côtés. Là, vous retirez une petite épaisseur de terre et vous coupez l'extrémité des racines. L'arbre ne pense pas qu'il vit en captivité, va donc continuer à faire pousser ses racines dans une terre en permanence de qualité. En faisant ainsi, on peut garder des arbres très longtemps. Je connais des orangers à Versailles qui sont plus que centenaires et qui vivent dans des bacs pas très grands, et ce donc depuis très longtemps.
C'est malin,
donc
ça,
c'est possible, uniquement donc si on a pris soin d'avoir des bacs qui ont des ouvertures latérales pour pouvoir tous les deux ou trois ans procéder à ce que je viens d'expliquer. Et attention, certaines essences sont quand même difficiles à conserver. Je pense aux essences forestières, comme les hêtres, comme les chênes. Ce sont vraiment des plantes qui, là, ont besoin d'espace.
J'ai la chance, nous dit Simone, d'avoir sur un grand terrain une source. Puis-je l'utiliser pour arroser mon jardin?
Alors oui, on a parfaitement le droit de disposer d'une source, mais attention, il y a quand même quelques limites. Vous pouvez utiliser la source et vous ne pouvez pas l'épuiser. Alors, vous ne pouvez pas l'épuiser, surtout si vous avez en contrebas, donc en aval de cette source, eh bien des terrains qui profitent eux aussi de la source. Il y a la garantie trentenaire. Si les terrains en dessous profitent de cette source depuis plus de 30 ans, il vous est strictement interdit de tarir la source. De plus, si la ville ou le village dans lequel vous vivez a besoin de l'eau de cette source, vous ne pouvez pas nuire à l'alimentation générale de la commune. C'est ce qu'on appelle le droit des villes. Mais effectivement, vous avez parfaitement le droit d'utiliser une source pratiquement à votre guise. L'eau vous appartient, même s'il y a une petite connotation que je n'apprécie pas.
C'est pour ça que le papé était coupable.
Eh bien oui, tout à fait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les baies de la symphorine sont-elles toxiques, vous demande Juliette.
J'adore cet arbuste, car voyez-vous, Patricia, c'est mon premier succès végétal. J'ai végété, et ce n'est pas un jeu de mots, dans une école horticole, et j'avais rapporté chez mes parents en 1976 une petite bouture de symphorine. Le végétal vit toujours, et donc quand je pense à cette plante, je me dis qu'elle était quand même sacrément robuste. Et cette plante que nous connaissons tous, qui a l'avantage, d'ailleurs, je conseille souvent de les planter au pied des souches. Parfois, on coupe un arbre, parce qu'il est mort, on n'a pas les moyens, on ne peut pas extraire la souche, ce n'est pas très joli, à moins de mettre un pot de fleurs dessus, mais ce n'est pas non plus du meilleur goût. Donc, on va planter la symphorine qui sera parfaite pour recouvrir la souche. Alors, elle produit effectivement des petites boules blanches, des baies assez décoratives. Eh bien, oui, elles sont toxiques. Elles ne sont pas gravement toxiques, mais on évitera quand même de les boulotter. Ça vous évitera de passer quelques heures là.
Quel est le meilleur produit pour nettoyer les feuilles? Quel est le meilleur produit pour nettoyer les feuilles de mes plantes vertes, vous demande Lisa.
Alors, il y a quantité. Alors déjà, on évite les produits vendus dans le commerce. Ils brûlent le végétal, ils ne servent à rien. On peut dire la bière, pareil, que ça se fait beaucoup.
Le lait aussi.
Ah, le lait, oui, est très efficace. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du lait, un petit coton, et on époussette régulièrement.
Comme ça, on se garde le verre de bière pour le boire.
On le boit et on n'oublie pas non plus la vieille huile d'olive. Oui. Légèrement pour faire briller les feuilles.
Ah d'accord.
Eh ben oui, un petit
mais
coup.
Sauf qu'après ça, c'est gras, non?
Bah à moins que vous ayez l'habitude.
Vous les caressez souvent?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, vous avez souvent pris une plante verte à
bras
le corps.
Oui, régulièrement, je les prends dans les bras tous les jours.
Mais ça ne m'étonnerait pas.
Victor vient d'acheter un chêne magnifique. Il est vendu en motte et celle-ci est protégée par du grillage. Une fois l'arbre planté, faut-il couper le grillage?
J'aime cette phrase. Une fois l'arbre planté, faut-il couper le grillage? Donc oui, déjà, on ne touche à rien tant que l'arbre n'a pas été installé dans sa fosse de plantation, c'est une certitude. Le grillage qui permet à la terre d'éviter qu'elle ne s'effrite, eh bien, est supposé se dégrader avec le temps. Il y a des fois, malheureusement, eh bien, le grillage est résistant. Donc j'encourage effectivement à couper à la tenaille l'ensemble de la motte pour permettre aux racines de pouvoir se développer sans aucune contrainte.
Question de Claude. N'y a-t-il pas danger à produire du compost avec des feuilles sources d'allergies ou de démangeaisons?
C'est vrai qu'il y a quantité de plantes qui produisent des feuilles allergisantes. Je pense au laurier rose. Même le figuier, c'est pas toujours très agréable pour la peau. La verveine également peut être urticante. Non, rassurez-vous, lorsque les plantes se dégradent, elles perdent leur capacité à nuire. La chaleur, la décomposition font que vous pouvez parfaitement toucher, même plonger les mains dans un compost fait à partir de ces feuilles. Il n'y a absolument aucun problème, soyez sans crainte.
Vous êtes sûr, hein?
Ah, j'en suis certain.
Bon, d'accord, si on a des plaintes, on vous les envoie.
Eh bien, oui, non, mais il n'y aura pas de problème.
Mon cher Alain Baraton, nous allons terminer avec un conseil de lecture ou de promenade, je ne sais pas.
Eh bien, une collection de livres, c'est une nouvelle collection chez Plume de Carotte qui vient tout juste de sortir.
Ah, c'est chouette, j'adore cette collection.
Oui, c'est une très belle collection et c'est l'occasion simplement de découvrir des textes des grands auteurs de la littérature qui ont écrit sur la nature. Et les trois premiers volumes, Edgar Allan Poe, des contes macabres merveilleuse nature, Pierre Lethier, célèbre Pierre Loti, Les immensités de la nature, le soleil et la mort. Et enfin, Ivan Tourganieff, Natures éternelles, humanité éphémère. Trois petits bouquins à 9,90 €. C'est vraiment une très belle idée. C'est une riche idée.
Et c'est donc, vous rappelez le
titre? Donc ça s'appelle Esprit de nature. C'est publié par Plume de Carotte, 9,90 € dans toutes les bonnes librairies.
J'aime bien quand vous répétez. Merci à la marathon.
À demain.